418-971-1021 pour réagir avec nous, parce que je suis certain que le prochain sujet va vous faire réagir avec le prof Sylvain Duclos. Pascal, as-tu déjà été victime de violence à ton école secondaire?
Non, ça n'a pas fait partie de mon parcours. Par contre, j'ai été témoin de violence. Puis ça venait beaucoup me chercher, moi, jeune.
Ah oui, moi, nous, on était une gang de 10 boys à l'école Cardinal-Leroy, puis on réglait ça, nous autres, les cas de violence.
Bien, sûrement par un genre d'autorité quelconque.
Ouais, ben,
moi,
c'est
j'en
ça.
Avais pas tant, tu sais, j'étais tout le temps fine, tout le temps... pas grandir, ouais. Pas dire quelque chose.
Nous autres, on réglait ça en parlant dans le casse au monde.
Mais clin d'œil sur quelque chose avant d'incorporer notre invité. La semaine passée, j'allais pour un souper de fête.
Oui.
J'étais dans Sainte-Foy. Gang de boys, genre secondaire.
Oui. Ils
sont dehors puis ils sont pas à l'école. Mm-hmm. Commence à se chamailler. La gang en pousse un pas à peu près sur la pelouse gelée.
Oui, oui.
Puis ça, clairement, ça y a fait mal. Puis il y en a un autre qui arrive puis on dirait qu'elle allait le botter. Hey, là, il y a quelque chose de moi qui est ressorti. Tu sais, âge adulte, estime de toi à 32,
parle-moi
pour te virer
ça.
Vers des jeunes. Puis moi, je suis fixée, puis j'étais avec mon chum, puis lui, il me tirait.
Bombes.
Il dit, viens-t'en. Puis je dis, non, moi, je veux m'assurer que c'est correct, puis le petit gars, il n'est pas en danger ou quoi que ce soit. Mais ça, dans les écoles, ça doit arriver régulièrement. Là.
Exactement. Comment on agit avec ça? Parce que hausse de 38% dans la région de Montréal, des gestes de violence envers nos adolescentes. Et pour en parler avec nous, on a le prof Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques ici dans la région de Québec. Prof Duclos, comment vas-tu?
Hey, ça va super bien. Salut Jeff, salut Pascal.
Salut. Prof, tu vois tout ça dans la région de Québec aussi, une montée des gestes de violence envers nos adolescentes?
Écoute, dire qu'il y a une montée des gestes de violence dans la région, je suis pas prêt à le dire. Je pense qu'on peut pas affirmer ça aussi facilement. J'ai lu l'article comme vous ce matin, puis moi, l'impression que j'ai au minimum, je pense qu'on fait tellement de prévention qu'au minimum, nos jeunes sont plus conscients de qu'est-ce que des gestes de violence. Peut-être qu'il y a des choses qui passaient avant sous silence. Puis là, nos jeunes savent que c'est de l'intimidation, c'est de la violence à caractère sexuel aussi. Je pense qu'on est de plus en plus conscientisés à ces enjeux-là, ce qui déjà là n'est pas mauvais.
Est-ce que, parce que dans l'article, on parle de rassemblement dans les corridors, autour de cases, tout ça. Comment ça se passe, la surveillance des casiers dans ton école puis dans les écoles en général pour empêcher que ça arrive, ça?
Bien, je vous dirais, dans les écoles en général, je ne pourrais pas dire. On a des surveillants d'élèves qui circulent dans les corridors, qui défont les rassemblements, qui s'assurent que tous les élèves soient le mieux possible. Bien entendu, il faut arriver sur les faits. Hein. L'école secondaire, c'est grand. On n'a pas 10 000 surveillants non plus. Donc, il faut arriver sur les faits. Sinon, s'il y a des situations qui sont problématiques, bien, il faut que ce soit dénoncé par les jeunes. Mais on sait qu'il y a une grande culture d'omerta dans les écoles. Puis ça, c'est pas d'aujourd'hui. Là. À mon époque, déjà, lorsqu'il se passait des choses, on voulait pas être le stool. Aujourd'hui, ils disent le snitch qui vient raconter aux surveillants. Donc, c'est difficile de faire la surveillance et de s'assurer que tout soit correct, mais on fait notre gros possible avec tous les intervenants.
Oui, mais les cellulaires ont joué pas beaucoup, je pense, dans cette exacerbation de violence-là. T'sais, qu'il y en ait de plus en plus, ça commence à la maison, ça continue dans les activités la fin de semaine, puis ça se répertorie. À l'école, j'aurais pensé qu'à l'école, on se gardait une petite gêne parce que, justement, il y avait des sanctions. Sont-tu assez fortes, ces sanctions-là?
Bien, il y a une question de sanctions, il y a une question de prévention aussi. Les sanctions, est-ce qu'elles sont toujours assez fortes? Je ne suis pas prêt à dire ça. Je pense qu'on veut garder nos jeunes sur les bancs d'école le plus possible. Puis malheureusement, des fois, il y a des sanctions qui se perdent. Pour avoir des bonnes sanctions, il faut aussi que les parents soient de la partie et qu'ils
Sylvain,
travaillent avec
l'école. Ah, Sylvain, t'abordes le point que je voulais apporter. Les parents qui voient leur enfant comme Dieu le Père, là, t'en frappes-tu de plus en plus? Parce que moi, je coach au hockey, là. Puis des fois, c'est pas évident de faire comprendre aux parents que ça serait le fun qu'il y ait une intervention un petit peu plus ciblée puis peut-être un petit peu plus droite comme mon père me faisait dans le temps.
Ben, il y a deux choses là-dedans. Tu m'as coupé dans ma phrase, Jeff, c'est bien correct.
Hey, je m'excuse.
C'est correct. Oui, il y a une certaine partie des parents, c'est pas la majorité, qui effectivement sont très amis avec leurs jeunes, veulent pas trop de sanctions puis ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le même jeune à la maison que nous avons à l'école. À l'école, il y a l'influence des amis. Le jeune a un statut social qui est différent de la maison, puis il n'y a pas les mêmes interrelations avec les adultes de l'école qu'à la maison. Donc, faire cette distinction-là, puis voir qu'on n'a pas le même enfant à la maison qu'à l'école, c'est difficile. L'autre chose aussi, c'est que quand les parents sont pas à la maison, par exemple, un jeune qui ferait des actes de violence et qui serait en suspension, bien, si on l'envoie à la maison, par exemple, je veux dire, pour 3 jours, bien, si le parent n'est pas là, au final, parce qu'il va travailler, puis c'est bien normal, puis que le jeune, il game toute la journée, puis qu'il passe sa journée sur sa PS5, on s'entend qu'on n'a pas des grosses sanctions, puis au final, le jeune, il a eu un congé de 3 jours, donc on peut se questionner sur ça aussi.
Oui, ça, c'est sûr que ça fait partie des paramètres modernes. Hein? Autre question. Dans mon temps, j'ai 32, des fois, c'est les intimidateurs qui gagnaient sur la personne intimidée. La personne intimidée, on dirait qu'il y avait certains établissements qui ne savaient plus quoi faire avec ça, puis pour arrêter l'hémorragie de violence ou de choses qui étaient portées contre ce jeune-là. Puis on le changeait d'école. La personne intimidée était celle qui changeait d'école. C'est encore comme ça, malheureusement?
Je te dirais que quand j'ai commencé à enseigner, on a une mode qui est arrivée, c'est-à-dire qu'on garde de plus en plus les jeunes dans leur milieu, que ce soit intimidateur ou intimidé, là. C'est-à-dire qu'on connaît le jeune, on a déjà commencé les interventions, donc le changer de milieu, le fond, c'est si on change de milieu, il va recommencer ailleurs. Donc, on est mieux de le garder dans son milieu. Donc, malheureusement, il y a des interventions qui parfois se perdent et il y a des jeunes qui sont intimidés, qui perdent patience ou qui sont tellement en détresse, qui effectivement finissent par changer d'école, ce qui est un drame monumental. Ça ne devrait jamais être la victime qui change de milieu. Il y a aussi une question des fois de compétences personnelles chez nos jeunes intimidés. Il y a des jeunes qui, malgré eux, attirent l'intimidation et avec qui on doit travailler pour qu'ils développent des compétences pour ne pas être les victimes perpétuelles.
Tu veux dire quoi, des compétences sociales?
Des compétences sociales. Il y a des jeunes qui, malgré eux, n'ont pas développé les compétences sociales avec les autres, qui, sans le vouloir, cherchent le trouble ou se posent en victime. On le sait, là, on l'a tous déjà vu dans notre jeune temps. Des jeunes qu'on savait déjà en arrivant à l'école que lui serait intimidé par les autres, malheureusement.
On parle avec le prof Sylvain Duclos, enseignant en mathématiques dans la région de Québec. On parle de la montée de la violence envers les filles dans les écoles secondaires de Montréal et on fait le comparatif avec Québec. Autre texte intéressant hier dans la presse, prof Duclos, c'est le fait qu'on interdit les cellulaires à l'école puis que ça amène moins de bagarres parce que je peux plus mettre ça, ces médias sociaux, ma bataille, puis me vanter de ça avec mes amis. Coudonc, c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de cellulaire à l'école.
Ouais, ça, j'ai un gros doute là-dessus.
Ben, OK, merci, j'avais le même doute.
J'ai un gros doute. Je pense qu'on a pris des citations de un ou deux jeunes, puis on les a montés un peu en épingle là-dessus. Je ne suis pas prêt à faire ce lien-là, ce constat-là. Oui, il y avait un attrait de filmer, de partager sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a plus d'interactions sociales. Oui, il y a des choses positives avec l'interdiction du cellulaire, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui quittent les écoles sur l'heure du dîner pour aller manger ailleurs parce qu'ils veulent être sur leur appareil ou être entre eux avec moins de surveillance, de plus en plus. Donc, peut-être qu'il y a de la violence qui s'est déplacée des cours d'école pour aller ailleurs.
Oui, mais ça, c'est difficile à être arrêté, par exemple. Un peu intéressant de voir que ça s'est amélioré, par exemple, sur le fait qu'on a enlevé les cellulaires. Il y a tellement eu de gens qui capotaient dans cette mesure-là. Est-ce qu'on peut donner à Bernard Drainville, qui est actuellement candidat à la chefferie de la CAQ, qui l'a vu juste malgré tout, malgré que ça ait fait un peu paternaliste?
Ben, moi, j'ai été le premier à dénoncer cette mesure-là mur à mur. Hein. Puis oui, je pense qu'on peut donner ça à M. Drainville, mais je pense que ce qu'on peut lui donner, c'est qu'il a écouté. Il a écouté, ça venait de tous les partis. Il y a eu une commission transpartisane sur les écrans. Puis M. Drainville, il a des forces, mais écouter les autres n'a pas toujours été sa force. Et cette fois-là, il l'a fait. Puis finalement, ça lui a donné de bons résultats. Fait qu'on va lui donner ça.
Alors, à retenir pour Bernard Drainville pour sa fin de campagne comme candidat à la chefferie de la CAQ. Écoutez, M. Drainville, écoutez. Prof Duclos, toujours un bonheur de te parler. Je te souhaite un bel après-midi avec tes élèves.
Merci, bonne journée.
Salut, merci. Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques dans la région de Québec. Il est notre expert en éducation. Dans un instant, Boulevard 101, on va parler avec Lambert Drainville. Il y a une mise à jour concernant Michael Rousseau. Donc, on va jaser de ça avec Lambert Drainville. Et on va aussi parler de sa rencontre avec Charles Milliard.
Peut-être la nommer, par exemple, cette mise à jour.
Bien
parce
sûr.
Que l'entreprise, donc Air Canada, qui est dans cette tempête linguistique-là, affirme que son président et chef de direction, ben Michael Rousseau, il entend rester en poste, malgré les appels à sa démission. On le dit, François Legault le demande, on le critique un peu partout, Ottawa l'a convoqué, mais on a dit et on répète que c'était pour s'exprimer rapidement sur l'accident mortel survenu à LaGuardia à New York, que son message était essentiellement en anglais. C'est ce que plaide l'entreprise.
Merci beaucoup, Pascal CV. Dans un instant, Lambert Drainville vient s'installer. On fait un gros bloc news également avec Pascal. C'est à l'émission Nan Jase sur Boulevard 102. Hein?